il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. » Nous allons nous arrêter ici pour un instant. L'apôtre Jean est donc convié à voir une autre vision. Il voit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et le mot nouveau ici, c'est le mot qui veut dire de nature différente. C'est pas nouveau dans le temps, comme on dit quelque chose de récent et nouveau. Mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Il est dit que le premier ciel et la première terre et notre ciel, notre univers, ont disparu. Et pour vous qui aimez bien aller vous baigner à la plage, peut-être qui aimez faire du surf, ça c'est pour Thierry. Windsurfing? Surfing? La voile? Il n'y aura plus de mer. Enfin, je crois que c'est... Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas nécessairement de l'eau, peut-être des lacs. On sait qu'il y aura une rivière. Mais comme il s'agira d'un univers parfait, le rôle purificateur de la mer... qui est impliqué dans le cycle de l'eau, ne sera plus vraiment nécessaire. Et rassurez-vous que ce qu'il y aura là, ce sera merveilleux. Que vous ne regretterez pas la promenade des Anglais. Même de plus jolies plages. La question que certains se posent, c'est de savoir est-ce que ça va être un renouvellement de la terre et des cieux. Ou bien une création complètement nouvelle. C'est vrai que, par exemple, dans le chrétien, Jean nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et que voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vrai que lorsqu'on est né de nouveau, on a un nouvel esprit, un esprit qui naît, qui est complètement nouveau. Mais notre corps reste apparemment le même. Souvent, nos émotions, notre caractère peut changer, mais pas dramatiquement nécessairement. Donc, il y en a qui pensent que c'est plutôt une espèce de transformation de la Terre. Par exemple, David disait dans le psaume 102, versets 26 et 27, que la terre et les cieux périraient et s'useraient comme un vêtement. Et puis il ajoutait, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. J'ai pu faire l'expérience personnelle que les vêtements, ça s'use. Et je ne savais pas une chose, mais j'ai découvert que les chaussettes sont cassantes. Parce qu'à Nice, l'eau est très calcaire. Une ancienne m'avait dit d'ajouter un peu de soupline ou... Mais au début, j'ai pensé que c'était pour faire joli. Donc, j'ai pas mis le produit. Et après, les fibres étaient tellement dures. Et les chaussettes sont tellement vieilles que quand on les plie, ça casse. Mais c'est vrai que les vêtements, c'est pas fait pour durer. Nous avons un espèce de costume terrestre. Pour vous qui êtes jeunes, vous dites le costume, il va durer tout le temps. Pour nous qui sommes moins jeunes, on s'aperçoit que le costume, lui aussi, il vieillit. Il y a des fibres qui commencent à se casser. Nous sommes, notre corps, nous dit Paul, est une tente qui vieillit. Il y a d'autres, pour revenir à savoir si c'est un renouvellement ou une création, il y a d'autres versets qui parlent plutôt d'une création totale. Il est dit ici, par exemple, que le ciel et la première terre avaient disparu. Souvenez, Jésus disait que le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront point. My words shall not, my words will not pass away. Et puis surtout, j'aimerais qu'on lise ensemble un passage dans 2 Pierre. De Pierre 3, c'est un peu avant. Page 268 dans la Bible à la Colombe. 268. De Pierre 3, on va lire les versets 7 et les suivants. On va lire à partir du... Ouais. Mais par la même, il est un point, verset 8, 3, 8, il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Voilà, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'événement du jour du Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront, et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Donc ici, on voit vraiment une fin presque comme une explosion thermonucléaire. Et il y a un autre passage dans dans l'Ancien Testament, c'est dans Ésaïe, 65, à la fin d'Ésaïe, verset 17, page 734, à la fin de l'Ancien Testament. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les événements du début. Ils ne remonteront plus à la pensée. For I'm building a new heavens and a new earth. You will not remember the events from the beginning. They won't even come back to your memory. Le mot qui est utilisé ici, le mot créer, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est le mot qui est utilisé dans la Genèse, lorsqu'il est dit que Dieu créa les cieux et la terre, à partir de rien. Il y a un autre mot, en hébreu, qui est le mot Aza, qui est créé à partir d'éléments existants. Et ça, c'est tout ce que peut faire l'homme. L'homme crée une maison, parce que d'abord, il trouve des matériaux pour faire cette maison. Dieu lui peut venir, et il peut bara. That's the Hebrew word. C'est le mot hébreu pour créer à partir de rien. Il parle et les choses viennent en existence. Et donc, ici, c'est le mot utilisé, c'est pour dire qu'il va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres à partir de rien. Peu importe. En fait, ce qui compte, c'est qu'il va y avoir une transformation radicale du monde, de notre terre. Aujourd'hui, 3/4 de la surface de la terre est occupée par la mer. Il n'y aura plus d'eau. On pourra aller passer des vacances en Atlantique. Des terrains formidables avec plein de fossiles sous-marins. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en fait, on vit sur une bombe. Vous savez que lorsque les savants de la NASA envoient des satellites dans l'espace, souvent il y a un système d'autodestruction de l'engin. Paco Rabanne, c'est le nom du French couturier, parle de la station Mir qui va tomber mercredi prochain. Il peut faire l'imbécile parce qu'il est en train de devenir millionnaire en vendant ses livres que les gens sautent pour acheter. Je suis surpris qu'il n'y ait pas un système de destruction sur la station même. No, I'm surprised that there is not a destruction system qui permettrait à la Terre de contrôler si le truc revient trop vite, on fait le terme exploser. Et en fait, nous vivons sur un monde, sur des atomes Je crois qu'on en parlait la semaine dernière, on ne sait pas comment ils tiennent ensemble. La loi de Coulomb, une loi de l'électricité, nous dit que les particules de même charge se repoussent. Et au milieu de chaque atome de matière, il y a des protons, il y a des neutrons aussi. On ne sait pas comment ils arrivent à rester ensemble. Parce que normalement, les particules de ces protons devraient se repousser. Alors on trouve des explications, on recule un peu plus. On sait maintenant libérer cette énergie. Mais on ne sait pas justement comment ça se fait qu'elle n'explose pas toute seule. La Bible nous dit que c'est Jésus qui contrôle tout ça. C'est dans Colossiens 1, 17. On peut s'y tourner. C'est page 227 dans la Bible à la Colombe. Il dit que tout a été créé par lui et pour lui, verset 16. Il est dit qu'il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Une autre façon de traduire, c'est de dire toutes choses sont retenues par lui. Held together by him. Il est le principe de cohésion de l'univers. Ça doit être quelque chose pour lui de voir les gens qui se moquent de Dieu. Qui se rebellent contre lui. Alors qu'il lui suffit d'appuyer sur le bouton et tout se désintègre. Il semble donc qu'à ce moment-là, il y aura cette fusion des cieux dont parle Pierre. The whole universe. Et vous dites peut-être c'est bien beau, mais pour l'instant j'ai d'autres soucis. C'est vrai que nous avons tous des soucis, des préoccupations, des ambitions, des désirs. Mais il est bon de se rappeler que tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous motive des fois, tout ça, ça va brûler. Votre maison, votre villa, même si elle a une piscine, le bateau, la voiture, la télé, le magnétoscope, l'ordinateur, les bijoux, le VTT, le livre, les livres, les outils, les skis. Thierry n'est pas là, mais même les planches à voile. Et ça devrait nous donner un sens des priorités dans la vie. Ces choses ne sont pas mauvaises en elles, mais elles ont vite fait d'attirer toute notre énergie, tous nos soucis. Jésus nous disait: cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous sont données en plus. Dieu peut nous bénir par des choses matérielles. Mais des fois, peut-être qu'il ne le fait pas parce qu'il sait que s'il y a ces choses, elles vont devenir nos idoles. Tout va brûler. Sauf notre relation avec les uns les autres et notre relation avec Dieu. Et Jésus disait d'investir dans les choses éternelles. Bill Gates pense qu'il a des façons plus productives d'utiliser le dimanche matin que d'assister à des services religieux. Il se trompe. Regardons dans chacune de nos vies, dans ma vie, dans la vôtre, est-ce que mes priorités sont vraiment spirituelles? Parce que vous vous dites peut-être ce rendez-vous avec Dieu, c'est lointain. Je vais continuer à profiter de la vie, comme on dit. Puis vers la fin, alors là, je me tournerai sérieusement vers Dieu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que c'est cette fin de vie. On peut être en bonne santé, se faire renverser par une voiture. Que ce soit par notre mort ou par la fin des temps, ce rendez-vous avec notre Créateur n'est pas loin. Comme on disait, 2080, la prochaine éclipse, si le Seigneur n'est pas revenu. Et nous sommes partis. Pour revenir à la révélation, à l'Apocalypse, il est intéressant de voir que, on l'a dit, c'est pas très original, que c'est le dernier livre de la Bible. Et qu'il y a beaucoup de parallèles avec le premier livre de la Bible. Si vous pouvez garder un doigt ou un marqueur à l'Apocalypse, chapitre 21. Et vous tournez à la Genèse, on va remarquer quelques parallèles. Premier verset de la Bible, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Apocalypse, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Verset 5 de la Genèse, il appela les ténèbres nuit. Non, he called. Et 25 de l'Apocalypse, 25, 21, là il n'y aura pas de nuit. Verset 16 dans la Genèse. Donc c'est chapitre 1 pour l'instant. Dieu fit de grands astres. Luminaries. Le soleil et la lune. On saute à l'Apocalypse, verset 23. La vie n'a besoin ni du soleil ni de la lune. Maintenant, dans la Genèse, au chapitre 2, verset 17, Dieu avait promis à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Par contre, verset 4 du chapitre 21, il n'y aura plus de mort. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni de deuil. Genèse 3, verset 1. Satan apparaissait comme celui qui trompait. Là, on a vu la semaine dernière que, la semaine d'avant, que Satan était disparu pour toujours dans l'étang de feu. Versets 6 et 7 de la Genèse 3, on voit que le péché est entré dans le jardin. Verset 27 de chapitre 21 de la révèle l'Apocalypse. La souillure n'est jamais entrée dans ce qu'on va voir qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. No pollution in the New Jerusalem. Si on continue, versets 8 et 10 dans la Genèse 3, c'est là que la communion de Dieu et de l'homme était interrompue. Par contre, au verset 3 de notre chapitre dans l'Apocalypse, on voit comment la communion est rétablie entre Dieu et l'homme. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Juste encore quelques passages des parallèles. Verset 13 de chapitre 13, c'était la victoire du serpent qui avait fait manger le fruit défendu à la femme et à l'homme. Non, verse 13, chapter 3. Alors que nous avons vu la semaine dernière que le diable était vaincu. Et plus loin, ça on le verra au verset Apocalypse 22, verset 3. Il y aura le triomphe final de l'agneau. Ça, c'est un verset que Nadia préférait qu'on évite. C'est le verset 16 de Genèse 3, où Dieu avait dit « Je rendrai tes grossesses très pénibles. » Non, they were, she was born babies in pain. Alors qu'au verset 4, il n'y aura plus ni deuil, mais il n'y aura plus ni cri, ni douleur. On doit prier pour Nadia et Laurence. Parce que c'est vrai qu'avec ces chaleurs, ça ne doit pas être très facile. Ça va? Gardons-les dans la prière, c'est vrai. On pourrait continuer, on va pas s'éterniser, mais simplement pour dire qu'au verset 23 de la Genèse 3, le premier paradis avait été fermé. Par contre, on verra que la Nouvelle Jérusalem, le Nouveau Paradis, verset 25, les portes ne se fermeront point pendant le jour ou la nuit. Parce qu'il n'y aura pas de nuit. Donc on voit comment dans la Genèse, l'homme et la femme avaient été chassés de la présence de Dieu. Nous verrons dans le prochain chapitre que nous verrons Dieu face à face. Jean disait, nous ne savons pas comment il sera, mais nous savons que nous serons transformés à son image. Les versets 2 à 8 nous parlent de la Nouvelle Jérusalem. Donc c'est intéressant parce qu'il y a, il y a pas mal de confusion. Il y a des passages dans l'Ancien Testament, notamment dans Ésaïe ou dans les grands prophètes. Où il y a des passages qui s'appliquent en fait à la Jérusalem du pendant le millénaire, la Jérusalem terrestre pendant le millénaire. Millennium. Et puis il y a la nouvelle Jérusalem. Et si on n'y prend pas garde, on prend des versets les uns pour les autres. Vous vous souvenez, on disait que les Juifs n'avaient pas compris que Christ devait venir une première fois pour souffrir avant de revenir pour conquérir et juger. Ouais. Je crois que c'est un peu une question d'optique. Les prophéties étaient faites bien à l'avance. C'est un peu quand on regarde la lune et le soleil. Depuis la Terre, on a l'impression qu'ils se touchent, quoi, qu'il y aura l'un qui sera juste derrière l'autre. Même s'il y a des millions de kilomètres entre les deux. Il y a une espèce de télescopage. Quand on prend des photos au zoom, on peut donner l'impression que les montagnes enneigées de Saint-Martin-de-Vésubie sont juste au-dessus de Nice. Et de la même façon, je crois que les prophètes, ils racontaient ce qu'ils voyaient. Ils voyaient la Jérusalem céleste, ils voyaient la Jérusalem du millénaire. On a dit, par exemple, qu'il n'y aurait plus de mer. Il y a des passages dans Ésaïe qui parlent de la terre et de la mer. Et en fait, on sait que ça ne peut pas être l'état d'éternité, mais ça se fait référence au millénium. Et une fois encore, l'Ancien Testament nous a été donné pour que nous puissions comprendre ce qui nous est révélé dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez qu'il y avait le tabernacle dans l'Ancien Testament. Il y avait d'abord le parvis. Qui était comme une espèce de grande enceinte fermée. Une fois qu'on était rentré, il y avait un bâtiment. Il y avait d'abord ce qu'on appelait le saint lieu. Et puis il y avait le saint des saints. Seuls les juifs pouvaient s'approcher dans le parvis. Et pour entrer dans le Saint-Lieu, il fallait être un prêtre. Et pour entrer dans le Saint des Saints, il fallait être le grand prêtre. Et encore, on pouvait y rentrer qu'une fois par an. En faisant des sacrifices pour soi-même et pour le peuple. Je crois que ça peut nous aider à comprendre un peu mieux l'éternité. Qu'est-ce que va être le paradis, on appelle le ciel, le paradis. L'endroit similaire au parvis, ce sera la terre, la nouvelle terre. Le saint lieu, ça va être qui est appelée ici la Nouvelle Jérusalem. Et puis dans le chapitre 22, on verra l'arbre de vie, on verra la rivière qui coule de la présence de Dieu. Et ça, je crois que ce serait comme le Saint des Saints. Ce qui est merveilleux, c'est que par son sacrifice, Jésus nous permet d'aller jusqu'au Saint des Saints. Amen. Donc, il est question de cette ville sainte, verset 2. The chapitre 21, verset 2. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il y a un chapitre dans Hébreu qui nous indique, qui nous parle déjà de cette cité dans le Nouveau Testament. Hébreu 11. Versets 13 à 16. Parlant des saints de l'Ancien Testament, page 255. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie, et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Cette cité, c'est la Nouvelle Jérusalem dont il est question ici. Et Jésus, en parlant à ses disciples, nous a dit aussi dans Jean, chapitre 14, verset 1 et suivant, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais, je vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu nous prépare une place depuis qu'il est remonté au ciel. Ça fait près de 2000 ans qu'il travaille dessus. Et je crois que ça va être un endroit formidable. La semaine prochaine, on verra dans les versets qui suivent quelle est à quoi elle ressemble. On n'a pas une description complète, c'est pas une image, une photo. Il est dit ici que cette ville est comme elle est prête. En fait, c'est le mot « cosméo » dont on tire le mot « cosmétique ». Elle est parée, ornée. Comme une épouse qui est prête pour son époux. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'être mariés, vous savez que c'est un principe, on essaye de... Un jour, on essaye d'être radieuse de l'extérieur, souvent on l'est de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi on cherche. Et là, ça va être la même chose. Cette cité va être une beauté à contempler. Alors, on peut se demander, on dit, est-ce que la cité va être l'épouse ? Non. Souvent on parle de la ville. On dit par exemple que, je ne sais plus qui c'était l'an dernier, c'était Lens, qui était championne de France en foot. C'était Bordeaux, pardon, pour les Bordelais. Bien sûr, quand on parle de la ville, on parle des gens qui l'habitent. Et on a déjà vu avec les noces de l'agneau que l'épouse, c'est l'Église. Non, the church is the bride of the Lamb. Bien sûr, on a vu aussi, on le verra par la suite, que c'est pas seulement les chrétiens du Nouveau Testament, mais aussi les anciens saints de l'Ancien Testament, les juifs de l'Ancien Testament qui avaient mis leur foi en Christ. also the old, not just the church, but also Israel and the Jews that came to the Lord in the Old Testament. Il y aura aussi les saints de la grande tribulation. Et il y aura cet endroit merveilleux qui sera merveilleux parce que Dieu sera là. Et puis, il essuiera toutes les larmes. Il n'y aura plus, verset 4, ni deuil, ni cri, ni douleur. On a du mal à imaginer un monde pareil. Et même des fois, on peut avoir des moments de joie dans la vie. Mais quelque part, il y a toujours cette petite angoisse. Fear. Ça ne va pas durer. Je touche du bois, disent les incroyants. Pour dire que tout va bien pour l'instant. Parce que quelque part, on est conscient que du jour au lendemain, une catastrophe, un revers de fortune, comme on dit. Imaginez un endroit où on puisse être joyeux sans arrière-pensée et pour l'éternité, c'est difficile. Mais ça, justement, ça doit être l'encouragement du chrétien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste la veille de partir en vacances, before leaving on vacation, votre patron peut vous demander des choses impossibles à faire. Vous allez essayer de votre mieux, mais vous en fichez un peu. En anglais, il y a une expression, on dit on est des short-timers. Ça veut dire que les gens qui savent qu'ils vont soit partir en vacances, soit qu'ils prennent leur retraite ou ils changent de travail, ils sont relax et détendus. Et en fait, nous sommes tous des short-timers. Amen. On a quelque chose de formidable qui nous attend. Donc prenons nos peines, nos difficultés en perspective, sachant que l'Esprit de Dieu est là pour nous consoler, nous encourager. Nous sommes là les uns les autres pour nous encourager aussi. Mais nous n'avons pas à paniquer devant les difficultés de la vie. On reverra rapidement, je veux juste le commenter. C'est Jésus qui parle, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga », verset 6. Verset 5, il précise à Jean, il lui dit « Écris car ces paroles sont certaines et vraies ». Il veut nous encourager à comprendre que c'est la réalité, que ce n'est pas une vue de l'esprit ou un souhait, un désir. C'est vrai, ces choses-là. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui, verset 6, il donnera de la source de l'eau de la vie gratuitement. Mercredi dernier, nous avons parlé de Jean 4, de Jésus avec la Samaritaine et qui lui donnait de l'eau de vie. C'est vrai que quand on boit, j'ai bu tout à l'heure, j'ai encore soif. quand on boit de l'eau de vie, on n'a plus soif. On a la paix dans le cœur. On a la plénitude à l'intérieur. Même s'il y a des difficultés à l'extérieur, même si extérieurement on doit se battre, on doit souffrir. Ça, c'est l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, verset 7, et il sera mon fils. Pour les autres, ben eux, il est question d'eux au verset 8, les lâches, les incrédules, les abominables, etc., eux seront dans les temps de feu. Donc encore une fois, la Bible est très claire, il n'y a pas un pardon, une amnistie générale. Amnesty? There's no amnesty. Il y a un choix à prendre maintenant dans notre vie. Je vais terminer avec ce verset, 1 Jean 5, versets 4 et 5. C'est juste avant l'Apocalypse. Chapitre 5, verset 4. Parce que c'est bien beau de dire que c'est donné au vainqueur. It's all and well to say that it's for the conquerors. Mais peut-être on pense que les conquéreurs, les vainqueurs, ceux qui conquièrent, c'est les super saints. Non, en fait, regardez, verset 4 de 1 Jean. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. Notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, alors vous êtes un triomphateur. Et ce paradis dont nous parlons, c'est votre nouvelle adresse. Vous pouvez aller à la poste et donner un changement d'adresse. Amen. Prions. Seigneur, c'est vrai que nous avons du mal à imaginer un tel endroit. Tu ne nous as pas tout révélé. Peut-être que certains diront qu'il n'y a pas beaucoup de renseignements. Mais tu nous en donnes assez, Seigneur, pour nous donner vraiment envie d'être là. Seigneur, je te demande vraiment de toucher ceux qui n'auraient pas encore pris cette décision des triomphateurs. Lorsque l'on voit les conséquences de ce choix, les temps de feu où la nouvelle Jérusalem et les nouveaux cieux, nouvelle terre, on voit, Seigneur, qu'il ne peut s'agir que d'un aveuglement. Seigneur, ouvre leurs yeux. Et Seigneur, merci de nous donner cette assurance que nous serons avec toi. Seigneur, fais que ces versets que nous avons commencé à lire soient vraiment une source de joie quotidienne dans notre vie. Que tout le reste des choses qui nous préoccupent, Seigneur, nous les prenions dans cette perspective. Seigneur, remplis notre cœur de cette source de vie. Parce que c'est vrai, nous n'avons plus soif. Mais ce qui est merveilleux, Seigneur, c'est que tu fais de nous des fontaines pour les autres aussi. Que notre joie, notre paix soit comme une fontaine pour ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le merveilleux avenir que tu nous prépares. Aide-nous à vivre dans la réalité de cette attente, Seigneur. Que ce ne soit pas une fantaisie, un rêve, mais une assurance dans nos cœurs. Merci Seigneur. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous allons continuer donc, Dieu voulant, la semaine prochaine, la description de la Nouvelle Jérusalem. Ça sera chouette. Amen. Amen.